bienvenue dans le podcast Lectus pour la saison 2. Alors cette fois, on s'éloigne un peu de la fantaisie, on reste dans l'imaginaire. On a décidé d'orienter cette saison 2 autour de la science-fiction. Et d'ailleurs, Johanna, première question pour toi. Quel est ton rapport avec la science-fiction? Qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi est-ce que tu le rattaches?
Plutôt au film, pour le coup, j'ai pas lu, je pense, beaucoup de livres de science-fiction. C'est pas mon domaine préféré. Ça reste, voilà, il y a la fantasy. Après, bon, fantasy et science-fiction, on l'avait déjà dit, mais ça reste quand même assez lié sur certaines idées. Du coup, j'en ai lu un peu, mais pas tant que ça. Mais il y a quand même des concepts qui sont intéressants, donc là, je pense qu'on va faire pas mal de découvertes, du coup, avec cette nouvelle saison. Et toi, du coup, par rapport à la science-fiction, tu te situes comment? C'est un genre que t'apprécies ou pas plus que ça?
C'est un genre un peu comme toi où j'ai pas eu vraiment l'occasion de lire. C'est plus quelque chose que je vais regarder en série ou en film.
Ouais, pareil.
Et je sais pas, dans mon imaginaire comme ça évoque vraiment tout de suite la première rêve que j'ai, c'est Star Wars, c'est tout de suite c'est l'espace, c'est les
Oui.
vaisseaux, la conquête spatiale,
Oui,
c'est
oui.
toujours ce genre de choses-là.
Ouais, truc scientifique un peu aussi.
Oui, alors que effectivement, quand tu regardes vraiment la définition, c'est vraiment prendre la science et l'extrapoler. Donc c'est très très large, c'est pas forcément ailleurs que sur Terre, enfin voilà.
Oui.
Donc ça va nous permettre d'explorer effectivement tous ces différents, on va dire, gammes de science-fiction qui peuvent exister.
Et d'ailleurs, on a fait du coup une petite liste. On a sélectionné en fait des livres qu'on nous a recommandés, vu que voilà, comme on l'a dit, on n'est pas forcément familière du sujet. Et on a pris une liste de, je crois, une dizaine d'ouvrages.
Une dizaine de livres qui vont changer aussi par rapport à la dernière saison, c'est à chaque fois c'est des one shots. Donc
Ouais.
c'est aussi peut-être plus simple pour découvrir des
Une
petits
œuvre.
livres, enfin voilà, de se faire un peu se familiariser avec le genre. C'est vrai que
Oui,
ça
si
peut
c'est pas
aider les
trop,
lecteurs.
oui, voilà, si c'est pas trop votre truc, la science-fiction, là, il y a vraiment des livres qui sont, comme l'a dit Justine, il y a des one-shots, et surtout, il y a des livres qui sont vraiment ultra courts à lire, donc ça, c'est quand même bien pratique. Et est-ce que, du coup, tu peux nous faire un petit déroulé de la liste des livres qu'on a sélectionnés, du coup, pour cette nouvelle saison?
Ouais, tout à fait. Alors, on va commencer déjà pour aujourd'hui, premier épisode,
Oui.
avec Becky Chambers. On va lire, on va parler, on a lu déjà, un psaume pour les recyclés sauvages. Donc, un livre assez récent. Au niveau science-fiction, c'est une auteure déjà qui est plutôt contemporaine. Et un petit livre qui est sous forme un peu d'un essai ou d'un conte philosophique, ça fait à peu près une centaine de pages. Donc, pour débuter, c'est très bien. On enchaînera après, alors pas forcément dans l'ordre, avec
Oui.
Daniel Keyes pour Des fleurs pour Algernon, un peu plus vieux, qui a été écrit dans les années 60. René Barjavel, La nuit des temps, pareil, un peu plus, dans le même,
Ouais, à peu près les mêmes
ouais,
époques.
mêmes années, dans les années 60, et pour le coup français.
Il est français, le petit
Ouais.
René.
Ensuite, alors un livre qu'on va certainement peut-être malheureusement écarter. On était parti sur Ursula Le Guin avec La main gauche de la nuit, mais a priori c'est vraiment une grande saga où il y a des livres entre les, enfin il y a des liens pardon entre les livres. Et du coup, on savait pas vraiment si on le gardait ou pas. On nous a recommandé un autre livre qui est donc Svastika Night, par Katharina Burdekin. Là, pour le coup, on revient
Très très lent.
ouais, aux origines quasi de la
Oui,
science-fiction,
oui. Oui,
1937 pour ce livre-là.
ouais, c'est le plus vieux, je crois, de la liste.
Des choses aussi beaucoup plus contemporaines. On va lire ensemble pour cette saison Pierre Bordage avec Les Dames Blanches, Hugh Howey Phare 23, 2016, Ray Bradbury pour Les Chroniques Martiennes, 54,
Ouais, bon,
petite
ça,
entorse,
ouais, c'est
et
connu.
un très connu, on finit en apothéose avec Alain Damasio, L'heure du contrevent,
Voilà.
en 2004. Donc voilà pour la liste de cette saison.
On la mettra à jour aussi sur le compte Instagram Lectus Podcast. Si vous ne suivez pas encore, n'hésitez pas à aller faire un tour. On essaie de mettre à jour comme on peut les publications et on mettra la liste complète du coup des œuvres desquelles on va parler dans cette saison de science-fiction.
Et d'ailleurs, pour aujourd'hui, on s'intéresse, comme on l'a dit, à un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers.
Oui.
Alors, Johanna, est-ce que tu peux nous en faire un résumé?
Oui, alors, donc c'est un livre qui est vraiment très très court, comme l'a dit Justine tout à l'heure, ça tient presque de la nouvelle, parce que voilà, il fait une centaine de pages. Donc, le résumé du livre, c'est qu'il y a plusieurs siècles de ça, en Panga, les robots ont accédé à la conscience et ils sont partis vivre dans la forêt. Et en fait, plus personne ne les a revus depuis. Et finalement, un jour, Dex, qui est moine de thé, donc thé comme le thé, hein, thé, café, voilà.
La boisson.
La boisson. Il va découvrir un robot qui vient prendre des nouvelles du monde et il veut répondre à une question qui est de quoi les gens ont besoin. Donc on va suivre les aventures de Onfal, qui est le nom du robot, et Dex, qui vont apprendre à se connaître et surtout qui vont digresser sur des questions de la vie de manière générale.
Mm-mm.
Voilà.
Ah ben, à tout de suite pour en savoir plus sur le contenu du bouquin. Mm. Alors le livre, il commence par un prologue, donc sur l'origine de la conscience des robots, où l'autrice, elle essaye un peu de nous faire un tour d'horizon de ce que pense, de ce que la société pense sur la conscience des robots, ou comment en tout cas elle a été expliquée en relation avec des divinités qui, dans l'univers qu'elle a créé elle-même. On nous dit... On comprend que la société qu'elle a inventée, elle est articulée autour de cette religion, ou en tout cas de croyances. Mmh. Il y a trois dieux majeurs et trois enfants dieux, sachant que dans le livre, on se concentre davantage sur un des enfants dieux, qui est Alalae, mmh. avec ce qui est une petite forme d'ours, d'ours d'été. On dit que c'est le dieu des petits conforts. Mmh. Et en l'occurrence, dans le livre, je pense que c'est plutôt réconfort. Quand on parle aussi de moine de thé, avec tout aussi, on détaillera un peu en quoi consiste un moine de thé. Mm. Mais voilà, un prologue est quand même assez court, je crois que ça fait quelques pages seulement, pour essayer de répondre à cette question donc, qui est à l'origine de cette prise de conscience des robots. Et peut-être une question, hormis justement cette première vision sur la société et sa croyance, qu'est-ce que toi, tu as perçu du monde? Qu'est-ce que tu en as retenu?
Alors, moi, au début, quand j'ai commencé à y arriver, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y a effectivement, les premières pages, c'est vraiment, je comprenais rien. Parce que t'es vraiment jeté dans l'univers d'un coup sur, je crois que c'est comment ils se sont mis d'accord pour que les robots aient une conscience, ou... Je sais plus comment c'est exactement au début, mais j'ai eu trop de mal, je me suis dit, oh là là, je vais rien comprendre. Et en fait, non, ça va, c'est que c'était un extrait d'un texte qu'ils avaient fait pour que les robots qui ont une conscience puissent faire leur propre choix et que les humains n'interviendraient pas pour essayer de les pousser dans telle ou telle direction. Donc, les premières pages du livre, c'est vraiment pour présenter la ville de Panga, donc c'est son nom, qui est située sur la Lune, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, on nous dit que c'est une Lune. Panga, on imagine que c'est... Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est un... Si, c'est une Terre, enfin, c'est le nom de la planète, entre guillemets, de la Lune, en l'occurrence, pardon.
Oui.
Mais oui. On ne sait pas si c'est la Terre ou pas.
Bah, non, en fait, c'est pas trop dit. Alors, en plus, pour situer en termes de datation, je crois que c'est bien... Je ne sais même pas s'il y a des dates qui sont données.
Je crois pas.
C'est assez flou, en fait, sur où est-ce qu'on est en termes de siècle. Enfin, on ne sait pas, mais on sait juste qu'en gros... la Terre a dû évoluer pour s'adapter, en fait, justement, donc il y a eu la prise de conscience des robots. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un univers qui est... Enfin, là, pour le coup, c'est une utopie.
Oui.
Voilà, c'est clairement une utopie, parce qu'il y a un très bon équilibre entre les humains et, du coup, tout ce qui est nature, en fait. Ils sont très respectueux, ils ont appris, en fait, à protéger les espaces, à recycler l'eau... Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés sur l'écologie. Enfin, c'est vraiment... moi, ça m'a bien plu parce que c'est rare, en fait, que ce soit... Souvent, c'est dystopique, la science-fiction.
Oui, là, c'est plutôt positif. L'homme, on va dire...
A appris un peu de ses erreurs. Ça. C'est clairement ça.
Il a repensé son rapport avec la nature. On nous dit que les hommes, ils vivent dans des villes enclavées et que le reste du monde et des océans appartient à la nature.
C'est ça.
Et c'est des grandes zones protégées où il n'y a pas d'activité humaine et qui laissent comme ça, on va dire, revivre par elles-mêmes, quoi.
Ouais.
Et puis toute cette idée aussi de société en décroissance, avec les énergies renouvelables, le fait de faire attention à ce qu'on produit, à notre impact sur l'environnement. Donc c'est une fable écologique très positive, très que ça change par
Oui,
rapport à
parce
des autres.
que là, je pense que dans toute la sélection qu'on a faite, il va pas y avoir beaucoup de choses positives.
Oui.
Enfin, en tout cas, pour l'instant, donc avec Justine, on a commencé à lire la plupart des livres. Et pour l'instant, à part celui-ci, c'est le seul qui est vraiment très très positif sur un après, en fait, où l'être humain vraiment apprend ses erreurs, quoi, et les corrige, et du coup, ça se passe bien. Donc, c'est dans ce contexte, en fait, qu'on va rencontrer Freur Dex. Donc, la particularité aussi de ce livre, c'est que l'autrice a choisi, en fait, de l'écrire avec l'écriture inclusive. Donc, c'est le pronom iel, donc Freur Dex, c'est un peu dur à dire, n'a pas de genre.
Oui, c'est
Donc,
à la fois un frère et sœur, enfin, c'est
voilà, c'est un mélange, en
ouais,
fait.
une référence du coup au clergé, enfin à la religion, en fait, voilà, aux
C'est
moines,
ça,
quoi.
c'est
Mais
ça.
du coup, effectivement, pas de genre. Et d'ailleurs, est-ce que c'était ta première lecture en
Oui.
écriture inclusive?
Alors
Ok.
oui, et du coup, c'est vrai que bah, je l'avais noté aussi que c'est moi, c'est le premier livre que je lis en fait avec l'écriture inclusive et tout aussi.
Ouais, pareil.
C'est un peu surprenant parce qu'en fait, on a tellement l'habitude que moi, j'avais tendance inconsciemment à corriger,
Oui.
à attribuer du coup un genre. Mais bon, après, finalement, ça se fait bien. Et l'autrice, je trouve qu'elle a écrit d'une façon où elle évite trop d'utiliser justement le iel. Enfin, la tournure des phrases est faite que, en gros, tu oublies que tu dois attribuer un genre à la personne. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas, mais.
Oui. Alors dans la lecture, à chaque fois je butais sur les Yel ou les Léa,
Oui.
parce que pour moi, bah, comme tu disais, inconsciemment, ton cerveau il corrige. Et comme c'est pas classé, tu sais, c'est il ou elle, tu sais pas trop. Mais effectivement, j'ai trouvé comme toi que l'autrice évitait de, enfin, utilise principalement Freur Dex ou Dex pour parler du personnage,
Oui.
et évite aussi les situations dans lesquelles on pourrait
Conjugué.
se, voilà,
Oui.
ou même dans des situations au niveau de la narration ou dans l'histoire, ça évite d'aborder,
Bah, des traits physiques
voilà.
qui pourraient. Oui, je suis d'accord.
Ou des sujets qui peuvent porter à confusion sur l'identité de genre du personnage. Et au final, quand j'ai fini ce livre-là, je me suis posé la question à moi-même, genre, est-ce que c'était vraiment si dérangeant? Et en fait, pas du tout. Enfin, moi, ça m'a pas du tout posé de problème, le
Non.
fait de pas savoir si c'est un homme ou une femme, et ça ne change rien
À l'histoire,
à l'histoire, à ce que tu perçois du personnage, à ce qu'il peut vivre,
non.
ressentir ou percevoir. Et du coup, c'est une expérience positive. En tout
Oui,
cas, j'ai
non,
trouvé.
franchement, pareil, à part voilà, le biais de correction qu'on a, parce que voilà, on a été élevé avec il faut faire un genre, etc., et l'accorder. Moi, j'ai trouvé ça chouette, le parti pris qu'elle a choisi. Et il faut aussi savoir que Becky Chambers, pour le coup, elle est. Donc, c'est une femme qui est lesbienne, qui vit aux États-Unis, donc qui est mariée avec sa femme. Et enfin, je pense que ça lui tenait à cœur, du coup, d'utiliser l'écriture inclusive, parce qu'elle doit être justement, je pense, très portée, du coup, sur le respect des individus, quelle que soit, voilà, la façon dont ils choisissent d'être perçus. Donc, c'est vrai que sur ce côté-là, moi, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Et si vous n'êtes pas familier, bah, comme nous, en fait, d'une écriture inclusive, ça peut être bien aussi pour débuter, pour, voilà, découvrir un peu ce, entre guillemets, nouveau genre, on va dire.
Et je trouvais que ça collait bien aussi à l'univers science-fiction,
Ouais.
parce que quand elle parle des robots, bah pareil, il n'y a pas de genre.
Non, les robots n'ont pas de genre.
Donc finalement, c'est assez intelligent de placer l'homme et la machine au même niveau, et puis bah, ça apporte aussi plein de questionnements, voilà, dont on va parler au cours de cet épisode. Donc on commence par un premier chapitre. Donc on découvre Freur Dex. Il est dans un monastère, on dit monastère des Bocages. Il y est depuis 9 ans et il n'est pas encore moine de thé.
Non.
Je ne sais pas exactement de quoi il est moine. Enfin, j'ai pas souvenir qu'on nous dise précisément c'est quoi sa fonction. On nous dit juste que bah, il travaille au potager, il va à la grainothèque,
Oui, bah, c'est vraiment c'est la vie.
ouais, un moine de la nature. Je
Ouais.
sais pas comment on pourrait les appeler.
Ouais, je crois que c'est pas trop précisé, mais oui, il s'occupe de plein de choses dans son ordre monastique. Et en fait, dès que s'il se re... enfin, je vais dire il, du coup, je pense que ça va sortir sans faire exprès, mais donc le personnage se retrouve bah, face à un questionnement qui va partir du fait qu'il supporte pas de ne pas entendre le chant des grillons.
Oui, il y a un peu une lassitude, il dit oh, je fais ça depuis 9 ans, on
Mais
sent
qu'est-ce que
que
ça m'apporte?
voilà.
C'est un grand questionnement sur quelle est l'utilité de ce que je fais, qu'est-ce que je suis. Enfin voilà, ça part vraiment de.
D'un malaise.
Ouais, c'est pas vraiment un burn-out, mais c'est un peu une. Enfin, c'est vraiment une remise en question sur sa personnalité. Il a envie d'entendre le chant des grillons, et apparemment, le chant des grillons, ça n'existe plus en fait là où ils vivent. Donc il sait même pas si les grillons existent encore. Et en fait, il va se mettre en tête d'aller écouter les grillons.
Oui, c'est le nouveau but de sa vie.
Voilà.
Donc il se dit, bon, ben voilà, mon rêve maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça va être d'aller écouter le chant des grillons dans la nature. Et c'est un prétexte, quelque part, pour quitter sa situation actuelle.
C'est ça.
Et donc pour pouvoir entreprendre ce voyage-là et retrouver les grillons, il va vouloir devenir en tout cas moine de thé pour pouvoir parcourir le monde et donc aller à la recherche de ces fameux grillons.
Et qu'est-ce que c'est un moine de thé?
Un moine de thé. Donc pareil, on n'en fait pas non plus une définition stricte. On comprend que donc c'est des moines qui font des voyages en fait, qui font des tournées.
Bah, ils sont itinérants dans une
Voilà.
petite roulotte.
Et donc ils vont de ville en ville et ils vont se poser par exemple sur la place du marché d'un village et ils vont inviter les gens qui ont besoin d'écoute à venir prendre un thé.
C'est des psys, hein.
C'est vraiment ça, j'ai ressenti
C'est
ça.
des psys qui te payent un thé et le thé, il est adapté avec. En gros, tu échanges avec le moine de thé. Le moine de thé va ressentir, par exemple, que tu es en colère ou que tu es lasse, et il va préparer un mélange qui est adapté pour te réconforter. Et du coup, tu vas pouvoir passer un moment à discuter et après un moment pour juste savourer ton thé et te détendre, en fait. Enfin, c'est vraiment ça, hein, le métier, entre guillemets, de moine de thé. Et en fait, finalement, j'avais noté, il était moine de jardin.
Ah, bien joué.
C'était précisé quand même. Et comment se passe, du coup, sa première expérience à Dex?
Alors, ben, il va quitter son monastère, il va aller récupérer son chariot vélo. C'est une espèce de tiny house avec un vélo qu'on peut tirer, qu'on peut tracter.
Et bien équipé, hein, d'ailleurs.
Ouais, j'ai beaucoup aimé la description intérieure. T'avais vraiment envie, c'était ultra cosy, t'avais vraiment envie d'habiter là-dedans. Et donc là, sa première expérience en tant que moine de thé, elle va pas très bien se passer. Il se lance un peu dans l'inconnu et il dit qu'il refuse d'être au départ un apprenti. Donc vraiment, il va se lancer comme ça.
Oui, bah pour apprendre sur le
Voilà,
tas, quoi.
sur le tas, donc il va poser son chariot vélo, il va installer voilà son petit matériel. Alors il nous dit que bon, il est pas très équipé, il n'y a pas de lumière, il y a juste une théière, un mug, et au final il y a une dame qui va venir s'asseoir à son salon et bah, qui va un peu parce qu'elle, j'imagine qu'elle a l'habitude
Oui, de
de
rencontrer
côtoyer
des
des
moines
moines
de
de
thé.
thé. Donc elle va un peu s'épancher sur sa situation. Et au final, il va pas trop quoi savoir lui dire.
Oui, en fait, c'est exactement pour situer comment ça a été écrit dans le livre. C'est comme quand vous avez quelqu'un, vous lui dites ça va, et la personne se met à chialer et que tu sais pas quoi faire, en fait. Ou que vous avez, voilà, un ami proche ou quelqu'un de votre famille que vous savez pas réconforter. Bah là, c'est exactement ce qui se passe. C'est bien décrit, en fait. Il y a vraiment un sentiment de détresse de la part de Frère Dex, pardon, qui sait pas, en fait, bah, la gérer. Donc, il se dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée?
Oui, c'est dur. Oh oui, je comprends. Oh
Oui,
oui.
voilà, c'est vraiment, tu sais, petit taf sur l'épaule, limite, enfin, tu sens que c'est pas ça, quoi.
Et pareil, il va lui servir un thé immonde, pas bien infusé. Elle
Ah
va faire
oui.
voilà semblant d'apprécier
Alors
juste
qu'en
par
fait,
politesse.
c'est ça.
Et au final, il dit les rôles s'inversent. Du coup, c'est plutôt elle qui va chercher à le réconforter sur le fait qu'il ait un peu foiré sa prestation.
C'est ça. Et après, donc, cette première expérience qui est un peu loupée. On a quand même, oui, en trame de fond, tout l'univers du coup que Becky Chambers a mis en place. Donc c'est, voilà, comme on l'a dit au tout début, la répartition territoriale de Panga, donc elle est à 50% aux humains. Les 50 autres pourcents, c'est vraiment que pour la nature et les océans, et c'est intouché. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit en fait d'aller sur ces territoires pour les préserver. Et après, en description, il y a aussi, c'est les villages. Les villages satellites avec les champs qui sont faits en forme d'anneaux. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est vraiment la permaculture, mais poussée à un niveau, enfin, associé à la science-fiction, quoi.
Oui.
Donc c'est tout est bien pensé. Enfin voilà, il y a vraiment tout cet univers très verdoyant et en même temps, c'est les éoliennes. Enfin, c'est vraiment l'énergie de la nature qui sert aux humains. Et ensuite, on va retrouver Dex donc, 2 ans plus tard. Entre-temps, il a appris en fait à faire son métier. Donc il a passé des mois à faire sécher des plantes, des baies, pour se faire son petit stock, pour préparer ses thés.
Préparer ses recettes. Et
c'est
donc,
ça.
On nous apprend que finalement, il est devenu un excellent moine de thé.
Ouais, tout à fait. En fait, il connaît parfaitement tous les villages. Il est capable d'y aller sans devoir regarder son comment ça s'appelle, je sais plus, c'est pas un ordinateur, si c'est un ordinateur, ils ont laissé ce nom.
Oui, d'ailleurs c'est intéressant par rapport aux ordinateurs, ils en ont un pour toute la vie.
Oui.
Et ça fonctionne un peu en mode tablette.
C'est
et,
ça.
Il le répare à chaque fois, donc t'as tout ce qui est aussi recyclage.
Oui, enfin, là c'est vraiment poussé, c'est vraiment la protection des ressources.
Oui.
Peu importe que ce soit matériel ou pas matériel, vivante.
Enfin, oui.
Voilà. Ils font vraiment très très attention à tout ça. Il connaît parfaitement les villages. C'est très dur de parler en yel. J'ai trop du mal. Alors qu'il faudrait pour
rendre hommage.
C'est vrai. C'est vrai. Donc yel connaît parfaitement les villages et donc yel est devenu un super moine de thé.
Oui,
c'est ce qu'on nous dit. Hein.
C'est ça. Et donc pour faire un peu comme sa première expérience avait été un échec, il y a toute une histoire où il arrive dans un village et où il déballe tout son matériel.
Il y a la cérémonie,
voilà.
C'est un peu la petite cérémonie où il va mettre en place du coup, il va se garer sur la place. On comprend que les villageois peuvent prendre rendez-vous avec lui en avance. Donc avec son ordinateur, il prévient en fait le village qui va arriver. Les gens peuvent prendre rendez-vous, donc généralement quand il arrive, il y a déjà un amas de personnes qui attend. Et il y a tout le cérémoniel où il va déballer la table, les chaises.
Les coussins,
voilà.
Les lumières.
C'est ça, pour que ce soit tout cosy et que tu puisses venir te poser avec ton petit thé. En fait, 2 ans plus tard, on se rend compte que Yael, en fait, a plutôt bien réussi en fait, sa reconversion, quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Et oui, sauf que le questionnement existentiel, la petite voix dans sa tête est toujours là, parce que ça fait 2 ans, certes, ça fait 2 ans qu'il parcourt le monde, mais il n'a toujours pas retrouvé
les
grillons ni leur chant. Mm. Donc ça revient à un moment donné, pendant qu'il quitte le village, juste après, il reprend la route, il doit se réarrêter quelque part, et en fait en cours de chemin, l'envie est trop forte, il se dit il faut que faut vraiment, j'avais laissé ça de côté, il faut que j'aille retrouver le chant des grillons. Donc il fait une recherche sur son ordinateur sur toutes les mentions ou références aux grillons qui ont été enregistrées
avant.
Ouais, dans le savoir en fait.
C'est
base de données.
Oui, voilà. Ça s'appelle pour eux du coup le monde d'avant, c'est la pré-transition.
Voilà. C'est
pour situer un petit peu et finalement il va découvrir que il peut aller à un endroit où potentiellement il y en a, je crois.
Oui, c'est ça, la dernière mention des grillons. Donc, ils font référence à un ermitage, l'ermitage de Francère, qu'il connaît, enfin, dans une région qu'il connaît. Elle est aujourd'hui en zone protégée, mais a priori, avant, elle était habitée. Et donc, il dit, tiens, je vais me rendre là. Et voilà, il y va.
Et donc,
deuxième voyage qui commence.
C'est ça. En fait, il lâche complètement, enfin, il prévient quand même sa communauté et les personnes qui pourraient avoir besoin de lui qu'il va être absent un certain temps. Et oui, en plus, là, on comprend que dans la communauté dans laquelle vivent les gens, tu peux vraiment faire ce que tu veux à partir du moment où tu es respectueux. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses tensions, quoi. C'est un monde qui vit en paix.
Oui.
Il n'y a pas du tout de guerre, on nous en parle à aucun moment. Donc c'est vraiment, c'est feel good, quoi.
Ouais, même au niveau du travail, on nous dit qu'ils travaillent la terre.
Ouais.
Il y a les moines, mais après, on ne sait pas vraiment comment est organisé.
On nous parle des charpentiers vite fait qui font les constructions, mais après, sinon, ça passe beaucoup par l'ordinateur, quand même.
Ouais.
De ce que j'ai compris, est-ce que tu peux commander des pièces, c'est leur réseau à eux, mais sinon, il n'y a pas... Oui, on ne sait pas comment est...
Comment niveau économie.
Oui, voilà. On ne s'explique pas trop. Je pense que c'est du troc, principalement. Enfin, c'est vraiment basé sur les gens, hein, dans tous les cas. C'est pas du tout capitaliste. Oui, voilà. C'est pas comme aujourd'hui, par exemple. C'est vraiment, pour le coup, très utopique. Et alors, qu'est-ce qui va se passer, du coup, sur son petit vélo Yael, qu'est-ce qu'il va trouver?
Il se lance donc sur une route inconnue en pleine forêt. Et au départ, il est super content, il retrouve la nature, un peu peur quand même, un peu flippé, mais heureux. de se retrouver tout seul dans un monde qu'il connaît pas, parce que il le dit aussi, le fait d'organiser ses tournées, bon, c'était devenu un peu la petite routine. Le fait de quelque chose qui est nouveau, c'est aussi quelque chose qui le rend heureux, a priori, au départ.
Et il y a l'euphorie d'avoir enfin pris une décision et de se dire, ok, en fait, c'est la bonne décision. Donc, Yael par le cœur léger, au départ.
Oui, clairement. Clairement, clairement, il va poser sa roulotte un soir, voilà, il va prendre sa petite douche, se faire la popote.
Oui, ça, c'est une scène qui est marrante d'ailleurs dans le livre, parce que il prépare son repas, c'est décrit comme un truc qui a l'air vraiment hyper ragoûtant en plus. Donc quand on lit, on est là, ouais, ça a l'air trop bon ce qu'il fait, la roulotte, elle est trop bien équipée, enfin, il a vraiment, enfin, Yael a tout ce dont il a besoin à l'intérieur pour se laver. On nous explique que l'eau grise, elle est récupérée, qu'elle est assainie après pour être remise dans le système. Enfin, c'est vraiment hyper bien pensé. Enfin, ils sont 100% écologiques.
Et autonomes.
Et autonomes, surtout. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu rêver. Et Yael, pendant qu'il prend sa douche, et ben...
Il sort de la douche, Yael sort de la douche complètement nu. Voilà, il a sa petite fricassée de légumes. Et là, il tombe nez à nez avec un robot. Un robot, surprise totale, parce que les robots ont quitté le monde des humains après le réveil à la conscience, comme on l'a dit dans le résumé, et depuis il y avait eu zéro connexion. Donc,
mais personne n'en avait vu, quoi. Donc c'était un peu devenu la légende urbaine de « Ah ouais, avant il y avait des robots et tout », enfin, et en fait, oui, il y en a un devant Yael.
Qui se présente.
Voilà, qui se présente. Oui.
Donc un robot prénommé Omphal Tacheté Splendide, en hommage à un champignon. Il explique que les robots, dès qu'ils s'éveillent, ils prennent le nom de la première chose qu'ils voient. Voilà. Donc en l'occurrence, c'était un champignon.
Donc Omphal, qui est le robot qui tombe nez à nez avec Dex. Et en fait, on nous explique qu'ils avaient eu, il y a plusieurs siècles, du coup, une promesse d'adieu. Qui en fait, en gros, les robots partaient vraiment, eux, ils voulaient aller dans la nature. Parce que voilà, ils étaient issus des industries, donc ils ont eu l'éveil de la conscience, et avec les humains, leur seul souhait, c'était de partir. Mais par contre, la promesse d'adieu, en fait, c'était de revenir sur le territoire des humains pour voir en fait comment ça s'était passé pour eux de leur côté, voir s'il y avait encore des humains. Donc en fait, il revient pour tenir cette promesse. En gros, c'était ça, hein.
Oui, c'était ça.
Voir comment les humains s'en sortent.
C'est ça. Enfin, Omphal, en tout cas, dit que ils se sont rassemblés avec quelques robots et qu'ils se sont dit qu'il était temps d'aller prendre des nouvelles des humains et de répondre à une question.
De quoi les gens ont vraiment besoin ? Ouais. Ont-ils besoin ?
C'est ça. Parce qu'il y a toujours, c'est intéressant la manière dont ça a été traité. Les humains ont créé les robots pour leur venir en aide. Les robots ont donc acquis une forme de conscience. Ils ont refusé de continuer à vivre avec les humains, pour partir de leur côté. Mais il y a quand même une espèce de réminiscence. Les robots sont là pour aider les humains.
Oui, donc, il y a la servilité un peu des robots qui revient en toile de fond, parce que à la base, ils ont été programmés pour ça. Donc voilà, ils reviennent quand même voir comment ça se passe pour les humains. Et le problème, c'est que Omphal, il va bousculer les plans de Dex. Et Dex, ça ne lui plaît pas du tout.
Oui, il va y avoir une sorte d'hésitation, de résistance, voire de rébellion. Il faut comprendre, c'est la rencontre de deux voyageurs. Il y a donc un humain qui va dans le monde des robots, enfin de la nature, pour aller s'enquérir du champ des grillons. Et à l'inverse, il y a un robot qui veut aller dans le monde des humains pour aller prendre des nouvelles. Et ils se rejoignent tous les deux.
Et une fois qu'ils se sont rejoints, donc Dex, lui, il veut pas en fait dévier de son objectif qui est de découvrir les grillons. Donc finalement, Omphal comprend qu'il va pas lâcher le morceau et qu'il est quand même là, voilà, pour découvrir des humains, etc., il lui propose de l'accompagner à l'ermitage et en échange, le robot demande à Dex de lui donner des infos sur le monde actuel dans lequel Yael vit. Et du coup, ils se mettent d'accord pour faire ça.
C'est ça. Et donc tout au long de ce cheminement vers l'ermitage, il va y avoir plein de discussions profondes sur la nature de l'homme, le rapport homme-nature, mais aussi le rapport homme-robot, Ouais. C'est vraiment deux êtres conscients qui vont se rencontrer, qui vont apprendre à se connaître, à fonctionner ensemble. Donc, plein de questions. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Une chose et un animal. Donc, une chose, un robot, un animal, un homme. Et donc, il y a plein, pour faire un peu un exemple de dialogue entre les deux, par exemple.
Ah oui.
Est-ce que tu te souviens?
Si, alors moi il y avait un truc que j'avais bien aimé en fait, c'est que ils discutent un moment de qu'est-ce qui les anime en fait, de qu'est-ce qu'ils aiment. Donc Onfal, le robot, lui, il aime les insectes et il s'intéresse vraiment à tout. Et sauf qu'en fait, Onfal, ça lui pose problème parce qu'il dit, bah moi je suis spécialiste en rien, ou enfin pas en profondeur. Dex lui répond. Ben en fait, t'es généraliste, donc t'es quelqu'un qui observe à grande échelle, donc c'est pas grave de pas être spécialisé dans un domaine en particulier. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, donc, bon, ça c'est sur les réseaux sociaux que moi je l'avais vu, mais il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, ce qu'ils appellent un peu multipotentiel maintenant, mais c'est, en gros, t'as plein d'activités qui t'intéressent, et en fait, ben finalement, tu t'intéresses à l'activité pendant un mois et demi, après tu la lâches et tu passes à autre chose. Et il y a des gens, du coup, qui sont en souffrance de pas réussir à trouver un truc, une passion, à laquelle ils s'accrochent pendant plusieurs années, comme des gens s'accrocheraient au dessin ou à la musique, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était bien, du coup, cet échange de remettre un peu au centre et de dire c'est pas grave de pas être spécialisé dans un truc, parce qu'en fait, t'apprends tellement de choses à côté que finalement, est-ce que c'est grave que tu connaisses pas un truc sur le bout des doigts? Peut-être pas, tu vois.
C'est même, j'allais dire, la leçon un peu du livre
Oui.
autour de justement d'avoir un but ou pas, d'en faire quoi, d'aller jusqu'au bout, de continuer, est-ce que ça suffit une fois qu'on a atteint ce but? Voilà, ce genre de choses.
Oui, bah ça, oui, c'est vrai qu'en fait, tout le long du livre, c'est Dex qui veut absolument avoir un but dans la vie et l'atteindre. Et ça, je pense que, enfin, c'est pareil pour tout le monde. On se dit, bah moi, mon but, c'est, par exemple, de changer de travail. Mon but, c'est de fonder une famille. Et en fait, dès qu'on est arrivé à atteindre ce but, ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut changer aussi entre-temps, on se retrouve un peu désœuvré. On se dit, c'est quoi mon but dans la vie? Alors qu'on pourrait juste se satisfaire d'être là, d'apprécier ce qu'on a. Donc voilà, il y a tout le livre qui tourne vraiment
Ouais,
autour
c'est
de
vrai.
cette thématique, justement pour la question principale qui est de quoi les gens ont besoin.
Donc ouais, ça ouais, c'était intéressant. Il y avait tout un dialogue autour de l'immortalité aussi,
Oui.
des robots.
Ah, qui est très bien fait d'ailleurs. Vraiment, j'ai trouvé super. Est-ce que tu
Ouais,
peux
c'était chouette.
nous expliquer justement par rapport aux robots comment ça marche chez eux?
Donc ça part d'une question de Dex, donc qui demande à Omphale s'il se souvient, s'il a des souvenirs d'avant l'éveil, d'avant la transition. Et Omphale lui répond que non. Et donc Dex comprend pas, parce qu'il comment ça, mais t'as pas des pièces d'origine, enfin t'es pas un robot d'origine ou quoi que ce soit. Et en fait Omphale lui explique que les robots ont fait le choix de se recycler, enfin que les premiers robots étaient les robots d'origine, et quand ils sont venus
Les premiers robots libres penseurs,
voilà,
c'est comme ça qu'ils les
c'est
appellent.
ça. Et quand ils sont venus à tomber en panne ou les pièces à se casser, eh bien, au lieu de réparer le robot, ils en créent un nouveau. Et donc, d'où les générations de robots qui se sont succédés, qu'on appelle les recyclés sauvages.
C'est ça, c'est leurs enfants, d'où le nom du livre
Voilà.
qui vient de là. Mais c'est vrai que c'était bien fait parce qu'en plus, il lui explique que. Le robot explique à Dex que le nom des lignées est inscrit en fait dans les pièces du robot. Donc en fait, tu peux savoir de qui tu as hérité les pièces. C'est vraiment en gros, ils démontent plusieurs robots, ils en reforment des nouveaux pour justement éviter que y a un robot qui ait 4-5 siècles qui reste sur Terre. Parce que ça va à l'encontre de eux, comment ils voient la vie, que toute chose arrive à la fin de son cycle et du coup ne doit pas être éternelle.
C'est
Donc
ça.
les robots, ils ont fait ce choix en tout cas pour eux.
Oui, mais ils ont quand même un arbre, du coup, c'est leur arbre généalogique, entre guillemets, c'est leurs
Oui,
gènes qui sont transmis de modèle de robot en modèle
c'est
de
ça,
robot.
c'est ça.
Et le parallèle, du coup, entre les hommes et les robots, il est d'autant plus. Il est plus proche que ce que Dex imaginait.
Oui, parce que lui, Yel avait son idée préconçue sur les robots. Lui, il pensait que le robot qu'il venait de rencontrer, c'était un robot qui datait vraiment du début, de l'éveil de la conscience. Et du coup, il se retrouve confronté à la perception qu'il avait et la réalité de la chose. Donc c'est que des choses en fait comme ça dans le livre, c'est que une opposition entre une manière de penser et une autre. mais c'est toujours, franchement, c'est toujours bienveillant, c'est
Oui.
toujours bien expliqué.
Et c'est toujours constructif, ils arrivent
Oui.
toujours à un équilibre, à trouver leur voie entre la perception des uns et des autres.
Oui, ou même s'ils ont un désaccord sur certains sujets, ben, ils arrivent toujours à peu près à se retrouver sans que ce soit, enfin, oui, qu'ils se fâchent pas, quoi,
Oui.
en fait. Et il y a plein d'autres sujets hein, qui sont abordés.
Ouais, autour des préjugés aussi sur les robots.
Ouais.
Dex a imaginé les robots comme bah, fonctionnant sur le calcul, la mémoire. Et au final, bah non, on fale des fois comme un être humain, se souvient pas de choses, ou alors elle la perçoit différemment. Donc ça, c'était intéressant aussi.
C'est marrant, tu dis elle, toi, tu l'as perçue
Ah, on
comme
fale.
elle.
Oui,
Ouais.
c'est vrai, pardon.
Non,
J'ai
non,
dit
mais.
robot. Alors qu'elle le dit, les robots, comme c'est des machines, les machines,
Bah, ils
c'est...
sont pareils, hein. Ils
Oui,
n'ont pas
ils n'ont pas
de genre.
de genre non plus.
Pas de genre. Mais c'est marrant, tu vois, comme quoi on est vraiment.
Ouais, je sais pas, on fale pour oui, pour oui. Moi, je projetais, ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est un robot, mais...
Non, mais
mais
c'est
c'est parce
marrant.
que, tu sais, ça m'a fait penser au film d'animation
Le robot
Robot
sauvage.
sauvage.
Et tu sais que je l'ai noté dans mes notes
Et
aussi. Je l'ai mis pareil. Et oui, c'est vrai que
oui.
c'est une femme
Oui.
dans le dessin
En tout cas,
animé.
elle a une voix de femme.
Oui. Ben, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, c'est un très très bon dessin animé. C'est pas tout à fait le même sujet hein, que le livre, mais il
Non, mais...
y a quand même protection de la nature et
Ouais.
tout, et les dessins sont
Mais
super.
trop chouette.
Ouais, donc
Trop belle
voilà.
histoire.
Petite recommandation dans la recommandation. Si jamais vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez aller regarder ça, c'est vraiment c'est chouette. Et en fait, Dex et Omphale, ils vont continuer leur route tout en discutant. Donc, ils vont toujours en direction de l'Ermitage. Donc, on va découvrir les vestiges de l'ancienne civilisation. Donc, moi, j'ai bien aimé aussi la partie sur les constructions. Les constructions qu'ils vont rencontrer. Donc, celles de, entre guillemets, notre époque, on voit qu'elles sont encore là. Elles étaient faites pour durer.
Les anciennes usines, oui, avec le
C'est ça.
fer, le
Exactement.
métal qui rouille, qui disparaît pas.
Voilà, et en fait, on nous dit que bah, maintenant, les édifices actuels, ils sont faits en mycélium, donc c'est-à-dire du champignon, et en caséine, justement pour en fait se désintégrer dès qu'il n'y en a plus besoin. Donc ça, c'est pareil, pour ne pas polluer la terre. Ça, j'ai trouvé ça, enfin, c'est vrai que ça serait top,
Oui,
en vrai,
oui.
d'avoir vraiment des matériaux qui
Ouais, de
se.
nouveaux matériaux de construction. Et encore, ça nourrit encore toute une réflexion sur le rapport homme-nature. Il y a tout un passage où il dit que, bah, effectivement, les hommes avant la transition, ils imaginaient un monde humain avec la nature autour.
Oui,
Et que.
j'ai noté pareil.
Ah, bah, tu
Moi aussi, j'étais là, oui, mais elle a tellement raison d'écrire ça.
C'est tellement logique, alors
Ben
que
oui.
c'est l'inverse. C'est les hommes qui sont dans la nature, qui font partie de la nature.
C'est ça, oui. En fait, dans le livre, elle explique que la nature était là bien avant les constructions humaines et en fait que les lieux humains existent dans les interstices de la nature et non l'inverse. Et c'est vrai qu'on n'en a pas toujours conscience parce qu'on se dit, ben non, c'est la nature qui est autour de l'activité humaine. Mais en fait, non, elle était là bien avant. Donc, c'est bien aussi ça de le redire en fait dans le livre.
Oui.
Donc, pendant ces discussions, voilà, ils abordent ce genre de sujet. Et finalement, Dex finit par se confier à Omphale pour dire qu'il n'est pas satisfait de sa vie alors qu'il a tout pour être heureux. Et du coup, ça lui pose un gros problème et il n'est pas en paix avec lui-même. Ce à quoi Enfin, elle répond que lui, juste exister dans le monde et l'admirer, ça lui suffit. Donc forcément, là, du coup, il y a une opposition entre bah, la réflexion que peut avoir le robot et Dex qui, lui, veut absolument avoir un but et atteindre ce but qui, en fait, lui permet d'être quelqu'un. En gros, c'est ça, du coup, le sujet.
Et d'ailleurs, je trouve que ça cristallise ce que Dex a beaucoup de préjugés envers le robot.
Oui.
Et que ça, justement, le fait qu'Omphale lui dise qu'il n'ait pas de but, au départ, je trouvais que bah, ça continuait à entretenir chez lui le fait que bah, un robot soit pas un humain. Et au final, ça s'estompe un peu au fil du bouquin.
Oui.
Mais surtout sur cette partie-là, quand ils vont visiter l'usine, ça m'a
Oui,
fait un peu penser à ça,
oui.
même autour on parle de vestiges,
Oui.
un peu comme des instincts primaires. Omphale dit que dans une usine, il se sent mal à l'aise.
Oui, parce que ça lui rappelle quand il était servile, qu'il devait faire le travail pour lequel il avait été assigné. Et oui, il y a plein de passages comme ça sur les préjugés ou les. Oui, les instincts primaires comme on y viendra après, mais la grotte, le noir, la nuit, enfin voilà, des choses qui restent ancrées en nous, parce que voilà, ça fait des milliers d'années que c'est à l'intérieur et que finalement ça reste un peu. Mais en tout cas, voilà, Dex finit par se confier vraiment à Omphal. Et Omphal, je trouve qu'il a plutôt des bonnes réponses. Lui, il prend vraiment la vie côté un peu, bah, comme on disait avant de commencer l'épisode, carpe diem. Donc lui, il est beaucoup plus... Il se prend pas trop la tête. Et en fait, lui, il trouve qu'on n'a pas besoin de justifier ou de mériter son existence et qu'on peut se laisser vivre. Et ça, vraiment, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, on en est tellement loin. Enfin, encore aujourd'hui, t'es obligé de... Enfin, oui, il faut être méritant, quoi.
Et vraiment... puis ta vie est basée sur... enfin, ton... Il faut que tu sois productif et t'as une valeur. Enfin, on passe quand même 7 heures de notre journée, 5 jours sur 7, au travail.
Oui, pour produire des choses, pour faire de l'argent, au final. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on en est encore loin, quoi. Et en fait, donc Omphal lui dit, c'est un peu comme les animaux, ils n'ont pas de but à part, se nourrir, manger, vagabonder dans la nature et tout. Et donc...
Et ça peut constituer une vie, et une vie pleine et remplie.
Oui, en fait, c'est ça, t'es pas obligé d'avoir un but pour être heureux. Et là, du coup, j'avoue que Dex, lui, il est pas d'accord. Il dit que c'est pas pareil, que les humains, ils sont pas à un stade de survie comme le seraient les animaux, mais qu'eux, ils sont plus à l'épanouissement. Et qu'en gros, ils ont besoin d'avoir des ambitions qui dépassent juste les exigences de survie, quoi. Donc...
Assez d'accord aussi.
Oui, non, mais c'est clair. Enfin, en plus, dans le livre, c'est des échanges où tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a vraiment des choses qui peuvent s'entendre des deux côtés. Donc finalement, le robot, donc, il lui explique que lui aussi, il a des ambitions, mais qu'en gros, c'est pas grave s'il les réalise pas et qu'il va pas se torturer pour ça, quoi. Donc Dex, lui, ça le surprend un peu, et il demande, mais ça te gêne pas que ta vie n'a pas de sens? Et en fait, le robot, il va lui dire, moi, j'ai juste une conscience qui me permet de percevoir le monde qui m'entoure et ça me suffit, quoi. Tu dis, ah ouais. Quand t'arrives à ce niveau... C'est quand même au-dessus.
L'éveil, ouais.
Voilà. Donc, ils continuent leur petit bonhomme de chemin à travers cette nature qui est très préservée.
Ouais, jusqu'au... Enfin, ils suivent... Pour l'instant, ils suivaient une route goudronnée.
Oui, une ancienne route goudronnée.
Voilà. On imagine une ancienne autoroute ou un truc comme ça, un délire. Et au bout d'un moment, cette route s'arrête. Donc, pour l'instant, il y avait encore un lien ténu avec le monde des humains. Et là, pour le coup...
Pleine nature.
Pleine nature, et qu'est-ce qu'on fait? Et le chariot vélo, clairement, on ne peut pas le faire passer. Est-ce que Dex continue? Est-ce qu'il continue à pied? Est-ce qu'il continue avec Omphal? Est-ce qu'il faut faire demi-tour? Il y a toutes ces questions qui se posent. Et il décide de continuer quand même. Enfin, qu'il a un objectif en tête, en mode vraiment têtu, malgré le danger. Hein, parce qu'on lui répète, on a répété tout au long du livre que la nature était dangereuse, elle n'était plus faite pour l'homme. Qu'il n'y avait personne qui savait où il était, enfin bref. Et quand même, il décide de passer outre et de continuer son chemin vers l'ermitage. Et donc, il s'enfonce dans la forêt, et là, il se coupe, il tombe, c'est vraiment, ça grimpe, c'est dur, vraiment dans le dur.
Oui, en fait, moi j'ai trouvé intéressant parce que c'est vraiment le parallèle entre ce qu'il vit dans sa tête et la difficulté physique aussi qu'il éprouve justement à atteindre un but. Oui, ils se sont obligés en fait d'aller à ce but.
Oui, c'est vrai, il se sent obligé, mais ça joue contre lui-même. Enfin, c'est vraiment lui contre lui.
Oui, il s'oblige à faire un truc parce que encore une fois, il a des croyances qui sont tellement ancrées qu'il n'arrive pas à s'en détacher. Donc, il va forcer du coup dans cette voie. Du coup, le robot va quand même l'accompagner. Va dire, fais attention, là il y a ça et tout, parce que lui, c'est son milieu. Donc heureusement qu'il est là pour l'aider, quoi. Parce que sinon, ça serait un peu la galère.
Et oui, et puis il commence à pleuvoir, et il y a une paroi rocheuse qu'il faut monter. Et là, pareil, têtu, mais à se mettre en danger. Il monte quand même, il tombe. Heureusement, le robot le rattrape, sinon il se serait fait mal. Et un peu las de la journée, il trouve refuge dans une grotte. Et là, il y a un peu un point de bascule parce que Dex, vraiment, craque. Craquage complet avec les larmes et tout.
Pas bien.
Non, pas bien. pas bien, justement, avec toutes ces questions qui ressortent et son mal-être qui ressort, le fait de pas se sentir à sa place.
Bah, il a peur aussi de gaspiller son temps inutilement et de faire des choses qui finalement lui apportent rien. Parce que, bah, il le redit, mais les humains sont mortels, ils disposent pas d'un temps infini, donc lui, enfin, Dex veut vraiment utiliser son temps pour faire quelque chose qui...
Qui a un sens.
Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, dans la grotte, ce qui est bien aussi, c'est que ça fait un peu le retour à... Tu sais, tu te remets vraiment à l'intérieur de toi-même, au fond de toi-même.
Oui.
Il y a un peu cette notion aussi qui est mise, et il y a le côté aussi avec les peurs primaires qu'engendre le changement, c'est-à-dire que dès que tu dois sortir de ton environnement, peu importe que ce soit pour le travail ou pour faire une activité ou peu importe, il y a toujours de l'inconfort à sortir en fait de sa zone. Et du coup, il faut accepter que ce soit pas confortable tant que ça change. Comme au début, voilà, pour devenir moine de thé, il a eu du mal. Et au final, ça s'est bien passé, mais c'est le temps d'apprivoiser l'environnement, etc. Et dans la grotte aussi, il a peur du noir.
Oui.
Et ça, en fait, c'est pareil, c'est vraiment une peur bah, primale, primaire.
Qui est ancrée
Voilà,
dans
c'est...
de notre passé d'homme singe.
Ouais. Donc, ils en profitent pour discuter, en tout cas, tous les deux. Et Omphale, en fait, il va réussir à faire du feu. Parce qu'il avait lu un bouquin qu'il avait trouvé quand il visitait, je ne sais plus quel endroit, là. Je ne sais pas si tu te
Bah ça,
souviens.
c'est à l'Ermitage, je crois qu'il réussit à faire un feu quand une fois qu'ils sont montés.
Ah oui. Et finalement, il va lui réussir à lui proposer du thé.
Bah, à la fin. Donc, ah oui, c'est vrai que cet épisode de la grotte, après, ils réussissent à monter tout là-haut,
Ouais.
à l'Ermitage.
Ah
Et
oui.
là où donc toute l'architecture est belle, enfin tout est. C'est vraiment l'alliance entre les hommes et la nature, un peu comme ce qu'ils ont réussi à faire, la relation entre robots et humains. Tout un passage, la description sur comment tout s'agence bien, comment enfin, l'Ermitage s'intègre bien, comment la nature a repris ses droits, mais le rend beau quand même. On retrouve les dieux et les différentes croyances qui s'enchevêtrent. Et Dex qui va parcourir l'Ermitage à la recherche des grillons et de traces du passé de l'Ermitage. Et effectivement, il retrouve Omphale, et là, il a fait un thé, il a fait un feu et il lui sert du thé.
Le rôle s'inverse du coup à ce moment-là. Dex va s'épancher auprès d'Omphale pour lui dire que ben, en fait il sait pas où diriger sa vie car il sait pas qu'est-ce qu'il espérait trouver ici et en fait il sait même pas qu'est-ce qu'il cherche exactement. Donc ben, voilà, il va boire son petit thé au thym et il va s'épancher avec le robot et au final qu'est-ce qui va se passer?
Bah, en discutant entre eux, Omphale, il dit bah, en tout cas, moi, je sais ce que je fais après. Moi, ma mission, c'était retourner dans le monde des humains
Oui.
pour aller prendre des nouvelles. Donc, moi, je sais ce que j'ai à faire. Et chemin faisant, Dex lui répond bah, ça serait bien, tu vas passer par-ci, tu vas passer par-là, par telle ville, tu vas rencontrer telle gens, ça va être trop bien. Et donc, au début, tu sens qu'il parle pour le robot. Il n'est pas dans l'aventure. Et finalement, dans l'une des dernières phrases du livre, il va utiliser le nous,
Oui,
donc,
s'inclut.
voilà, qui fait comprendre que bah, il a décidé de l'accompagner. Donc, il s'est trouvé un ami avec qui partager sa vie. Et peut-être que ça fait plus de sens de partager une vie à deux que la partager tout seul.
Ouais, et ça se termine surtout par le chant des grillons. Pour clôturer
Aussi.
finalement, voilà, après s'être mis d'accord tous les deux pour partir, enfin accompagner le robot dans sa quête, et ben Dex a la chance d'entendre le chant des grillons.
Fin ouverte aussi.
Fin ouverte. Mais en tout cas, qu'est-ce que t'as pensé du livre, même si là on a déjà évoqué pas mal de sujets, mais
Bah, moi j'ai beaucoup aimé, effectivement, c'est comme on l'a dit, c'était positif. Ça ressemble à un conte philosophique, ça te fait poser plein de questions aussi sur, bah, sur toi, ce que tu peux ressentir. Même si effectivement c'est un univers qui est inventé, qui est dans le futur, où il y a quand même de l'imaginaire sur l'éveil des robots et tout ça, ça fait quand même, ça fait écho à des réflexions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et se confronter aussi à des aspects de notre vie, enfin voilà, qui semblent acquis, comme la nature, enfin voilà, le sens, le progrès, enfin il y a plein de choses comme ça. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Et ben moi j'ai alors même si au début j'ai eu un peu de mal à mettre dans le livre, mais c'était enfin franchement c'était les 10 premières pages, juste l'introduction où tu sais je me retrouvais lancée dans un truc, je me suis dit oh purée je vais jamais réussir à lire. Au final si. Et franchement pour de la science-fiction, je pense que c'est un des seuls qu'on lira qui est aussi positif sur le monde d'après, parce que là clairement en vivant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on tend pas vers le mieux, malheureusement. Donc ça fait aussi du bien de lire une lecture où voilà, finalement les êtres humains ont réussi à se réapproprier de manière correcte, on va dire, le monde. Et il y a plein, effectivement, comme tu as dit, de sujets sur l'écologie, la transition, le recyclage qui sont mis en avant, qui sont, moi, pour ma part, des thèmes qui m'intéressent déjà dans la vie courante, donc c'était chouette de les retrouver dans un livre. Et puis, tu vois, enfin, moi, j'avais noté. Parfois, on ne voit pas bien où la vie nous mène, mais on est souvent tout à fait à notre place, même si ça peut paraître inconfortable à certains moments. Donc, il y a aussi le fait que, bah, dans la vie, des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme on aimerait, mais que ça nous apprend toujours quelque chose, comme Dex, au final, dans le livre. Donc, une bonne lecture avec l'écriture inclusive auquel on n'a pas du tout rendu justice.
Non, j'avoue, c'est trop
Bon,
dur.
c'est très dur à. Enfin, c'est tellement pas habituel que. Enfin. Donc, voilà, désolée en tout cas pour la mauvaise retranscription de Yel, mais bon, mais en tout cas une bonne lecture
Non,
ou
une chouette lecture. J'avais juste je sais pas si toi ça t'a posé question ou pas, le titre. Enfin, le rapport. Enfin, moi, c'est le mot psaume qui m'a un peu posé question.
c'est parce qu'il est religieux.
Oui, c'est pour ça, mais.
Je pense que c'est le psaume dans le sens encenser les robots, la parole des robots, la faire parler. T'avais pas compris ça comme ça?
Ouais, non, en fait, je voyais. Enfin, c'est pas que je voyais pas le rapport. Je vois le rapport parce qu'effectivement, ça tourne beaucoup autour bah, de la religion, du statut de Dex, etc. Mais je pense que ça aurait fait plus de sens si. Par exemple, on apprenait à la fin que bah, cette histoire-là, elle était dans, je sais pas, un manuel liturgique ou un truc comme ça, tu vois. Si c'était,
Ah oui, ok, en
voilà,
mode comme la Bible de comment s'est
c'est
créé le
ça,
nouveau monde un peu.
ouais, un peu
Ah
dans ce
oui.
genre-là.
Oui, bah, je comprends, mais c'est vrai que je pense qu'elle a vraiment utilisé le mot psaume parce que du coup, il est moine.
Oui.
Enfin, Yel est moine. Donc, je pense que c'est juste pour ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vois pas le rapport.
Oui, j'ai eu un peu de mal aussi, surtout que ben, un psaume, quand tu regardes la définition, c'est un chant.
Bah, c'est le chant des grillons.
Ok.
Ah, c'est les grillons qui clôturent. Oui, il y a tout un
Ça
truc. Peut-être qu'on digresse et que c'est pas ça du tout.
peut être un lien, effectivement.
Bah, en tout cas, si vous avez lu le livre ou que vous avez des théories sur l'origine du titre, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, bon, on espère que l'épisode vous a plu.
Oui.
Et on
On se dit à la prochaine.
Ben oui, à plus.
Salut!